Je peux te dire que je dédie ma présentation à la mémoire de ma belle-mère. Ça fait rien. Bonsoir. Donc, je voudrais dédier cette présentation à la mémoire de ma belle-mère, Janine Chaya Rivka Bat Rachel, qui nous a quittés pendant Pessah, et aussi à la mémoire de Rav Roubine, qui est l'auteur des Talel Orot, qui est mort aussi pendant ce Pessah-là. Et pour commencer aussi, je voudrais dire que tout ce que je pourrais dire ce soir d'exact, ou tout ce qui pourrait être remarquable dans cette présentation, je le tiens pas de moi, mais de mon rave, Moshe Gronstein, avec qui j'étudie chaque semaine. Et s'il y a des erreurs, bien sûr, je compte sur vous pour les imputer directement à votre serviteur. C'est à moi qu'il faut les imputer. C'est un cycle où on va essayer de parler du travail comme positionnement de l'homme dans le monde. Et je voudrais juste revenir quelques minutes sur la première intervention de ce cycle qui a été faite la semaine dernière par Rav Gronstein. Pour introduire un petit peu, on se pose la question de savoir qu'est-ce que l'homme a à voir avec le travail. Bien évidemment, c'est intéressant de se remémorer qu'est-ce qui a été dit, enfin, comment s'est passée la création de l'homme. Puisque dans la création de l'homme, on peut trouver des informations sur la nature des liens de l'homme avec le travail. Donc c'était le sujet qu'a traité Rav Gronstein la semaine dernière. Une créature créatrice, qui est dans Bereshit, le passage qui dit « Et Hachem créa l'homme à son image ». Alors, l'image d'Hachem, on ne sait pas trop ce que c'est. On a une information de Rashi qui nous dit « À son image, c'était avec un moule que Hachem avait. » Avec un moule qu'il avait. Et on sait que toutes les choses ont été créées par la parole d'Hachem. Tout le monde, tout ce qui existe dans l'univers, c'est la parole divine qui l'a créé. Mais l'homme a été créé aussi par les mains d'Hachem. Donc tout de suite, il y a quelque chose qui est remarquable, il y a une singularité dans la création de l'homme. Tout a été créé par la parole d'Hachem, mais l'homme a été créé par la parole d'Hachem et par les mains d'Hachem. Donc ça veut dire forcément deux choses, c'est que ces deux éléments, parole et acte, puisque en fait les mains symbolisent l'action, enfin les actes, ça caractérise l'homme au moment de sa création, pour lui permettre, puisqu'il est fait à l'image d'Hachem, également tout de suite une double action. L'homme peut agir par la parole et par des actes, un peu comme Hachem. Donc par la parole, Rav Gronstein avait dit, c'est par l'étude, par le limoud, qu'on peut avoir des équivalents, entre guillemets, d'actes, c'est-à-dire quand les actes ne sont pas possibles. Rav Gronstein avait parlé la semaine dernière de quand on étudie par exemple toutes les melachot de Shabbat, bien évidemment, on ne va pas transgresser une melacha de Shabbat pour savoir exactement comment l'appréhender. Donc par le limoud, on peut éviter la transgression des interdits d'Hachem tout en approfondissant complètement leur signification et leurs conséquences. Également aussi, pendant Shabbat, on a une interdiction de travailler, mais on peut remplacer les actes qu'on ne peut pas faire pendant Shabbat par une parole créatrice sur les brachot, etc. Donc la vraie forme de l'homme, c'est donc d'être à l'image du Créateur, à l'image d'Hachem. Dans la prière de Hana, on sait qu'elle dit à un moment donné, il n'y a pas de dessinateur, entre guillemets, comparable à Hachem. Et Rav Gronstein avait dit que Hachem a créé donc comme des miniatures, et quelque part, l'homme, c'est la première de ces miniatures qu'Hachem a créées. Et la deuxième miniature, pour qu'on comprenne comment ça fonctionne, c'est par exemple, ça pourrait être le Shabbat, qui est une miniature du monde à venir. C'est pas le monde à venir, mais ça en a déjà un petit peu le goût, donc on dit c'est une miniature. Et par rapport au sujet de ce soir, on avait évoqué une discussion entre les Chachamim pour savoir quand Caïn et Evel sont-ils nés. Est-ce qu'ils sont nés avant la faute ou après la faute? Quand on lit le texte de la Torah, on a l'impression que c'est après la faute. Et Rashi n'est pas d'accord. Rashi dit qu'ils sont nés avant la faute. Alors qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que s'ils sont nés avant la faute, il y a une idée commune qui est que en fait, quand on meurt, on se continue un petit peu à travers ses enfants. Donc, quand Rachid dit qu'ils sont nés avant la faute, ça veut dire que la notion d'enfant ne vient pas compenser la mort, puisque la faute d'Adam Harishon et de Chava a entraîné la mort. Sinon, avant, Adam Harishon et Chava étaient immortels. Donc si l'homme a été créé, l'homme créé avant la faute, en fait, c'est pour nous faire comprendre que l'homme, c'est un ensemble de relations. C'est pas, il a été créé tout de suite avec des relations, frères, sœurs, parents, enfants, et notamment entre frères aussi. Donc, qu'est-ce qui caractérise le créateur, Hachem? C'est d'être créateur, forcément. Donc, si l'homme est une miniature d'Hachem, il se doit d'être créateur aussi. Donc, on va voir les problèmes que ça peut poser, mais Rav Ronchan avait donné trois définitions de la créativité. Un, le fait de créer quelque chose de nouveau, un acte qui crée quelque chose de nouveau. Une capacité à trouver des solutions originales. Et une volonté de modifier ou de transformer le monde. Donc on arrive tout de suite au gros problème de l'homme. Si l'homme doit faire, entre guillemets, comme Hachem, c'est-à-dire qu'il est fait à l'image d'Hachem, il doit lui ressembler, on doit se rapprocher d'Hachem, on doit essayer de quelque part de le copier, mais on ne doit jamais oublier qu'on n'est bien sûr pas Hachem, qu'on n'est que l'ombre du Créateur. Et donc on doit avoir un rôle de Créateur, mais on doit se rappeler en permanence qu'on est créature. C'est le problème auquel l'homme est le grand problème de l'homme, c'est d'être créateur sans se prendre pour Hachem. Et bien sûr, le risque de se prendre pour Hachem, c'est l'orgueil. C'est le grand problème de l'homme. Alors, pour revenir donc au sujet de ce soir, après avoir la semaine dernière donc un petit peu étudié la façon dont Hachem a créé l'homme, on s'est dit que c'était forcément intéressant de savoir qu'est-ce que les deux premiers enfants, les deux premiers fils d'Adam Harishon avaient choisi comme carrière, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils avaient fait comme travail. Forcément, ça va nous donner des informations sur notre relation au travail. Donc, par rapport à ça, il y a une certaine actualité sur le temps de travail. Il y a même aujourd'hui, en politique, il y a un débat là-dessus, mais la question, c'est est-ce qu'il faut tendre vers une réduction du temps de travail, vers sa plus simple expression, c'est-à-dire je travaille uniquement le temps qui est nécessaire pour la nécessité, pour ce que je dois en retirer, ou au contraire, il y a une formule qui est passée, peut-être pas à la postérité, mais qui est célèbre aujourd'hui, c'est le travailler plus pour gagner plus. Donc c'est deux notions qui s'opposent, et tout de suite on va arriver à la question essentielle. La première question, donc la réduction du temps de travail, travailler moins, donc, mais pour faire quoi ? Une fois que j'ai dégagé du temps, qu'est-ce que j'en fais? Et la deuxième question, travailler plus pour gagner plus, on peut aussi poser la question, pour gagner quoi? Pour accumuler des richesses, pour mon orgueil, pour gagner quoi? Donc c'est pas du tout dans le sens économique ni politique que cette question nous intéresse, mais c'est plus dans la finalité de la démarche de l'homme, savoir quel sens il va donner à son travail. Donc c'est vraiment le sens individuel, le point de vue individuel que l'homme va donner à sa relation au travail. Et donc on va tout de suite regarder le premier passage de la Torah qui parle de Caïn et des Hevel. Et donc c'est un passage où la Torah nous enseigne les relations de la première fratrie de l'humanité. On sait que tout le monde sait que la fin n'était pas brillante, puisque ça a abouti au premier meurtre de l'humanité aussi. Mais c'est des relations un petit peu complexes. Donc on va faire un bref rappel de l'histoire, et puis ensuite on va essayer de revenir sur un certain nombre de points pour les étudier à la lumière d'un certain nombre d'enseignements, et notamment de l'enseignement du Rabbi de Volodine, qu'on a appelé le Netziv, qui a vécu au 19e siècle, que Rav Ronchan cite souvent, et qui a fait un commentaire du Chumash très intéressant qui s'appelle le Hamek Dava. Donc, premier rappel, très bref. Donc Caïn et Hevel, les deux premiers fils d'Adam Harishon et de Chava, tout de suite le passouk nous dit qu'ils s'orientent vers deux activités qui n'ont rien à voir, complètement différentes. Pour parler légèrement, on pourrait dire qu'il y en a un qui reprend l'entreprise familiale, qui se consacre à l'agriculture. Ça fait déjà deux générations qui sont dans l'agriculture. C'est l'aîné, c'est Caïn, alors que Hevel, on voit tout de suite qu'on nous dit qu'il se destine à devenir berger, pasteur, donc on a l'impression qu'il va aller garder les moutons. Enfin, c'est vraiment deux choix qui ont l'air très, très différents. Et puis la Torah nous enseigne qu'arrivé à une certaine maturité, donc après un certain temps, une certaine maturité dans leur travail respectif, les deux frères vont avoir une démarche qui est commune, mais qui est initiée au départ par Caïn, qui est celle d'approcher des fruits de leur travail en offrande à Hachem. C'est la première mincha, c'est celle de Caïn. Et là, il y a un drame, qui est un vrai drame, quand on se penche un petit peu sur le passou, qu'on voit une intervention d'Hachem directe qui agrée l'offrande de Hevel et qui se détourne de celui qui a initié cette démarche, de Caïn. Et tout de suite, quand on regarde le passouk, c'est très violent. Moi, ça quand on avait commencé à étudier ce passage, ça m'avait même choqué de voir comment, et on peut s'imaginer facilement les raisons pour lesquelles Caïn s'en afflige autant, s'en afflige extrêmement, puisque à l'époque, ils avaient une proximité avec Hachem qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Et donc, premier fils d'Adam Harishon, qui fait une mincha, qui voit qu'Hachem se détourne de sa mincha, c'est extrêmement violent. Donc le texte nous dit, la Torah nous dit que Caïn s'en afflige extrêmement et Hachem va s'adresser à lui. On va revenir plus tard après sur le contenu de ce que Hachem va lui dire. Mais on peut déjà comprendre que ce discours d'Hachem a mal été accepté par Caïn ou a mal été compris, puisqu'il va en arriver à tuer son frère. Alors si on essaie de, ça c'était une vue générale, si on essaie de rentrer maintenant de façon plus approfondie dans le texte, le Netziv commence par faire une remarque sur la façon qu'a la Torah de nous annoncer la naissance de Caïn et Hevel. Le pasouk nous dit « Vata'ar vateled et Caïn » Elle, c'est-à-dire Chava, conçut et enfanta Caïn. Et pour Hevel, tout de suite après, la Torah nous dit « Vatosef la ledet et achiv et Avel » Elle enfanta ensuite son frère Hevel. La première réflexion du Netziv, c'est de remarquer que les deux noms n'apparaissent pas comme si c'était Chava qui avait nommé ses enfants, comme on pourrait s'y attendre, une mère qui nomme ses enfants. Mais ça apparaît comme dans le pasouk comme un état de fait, comme s'ils s'appelaient déjà Caïn et Hevel, déjà dans le ventre de leur mère, comme si elle n'avait pas choisi leur nom, comme si c'était un état de fait. Et c'est d'autant plus remarquable que plus loin dans le texte de la Torah, on voit qu'elle nomme directement Chet, son troisième fils, au verset 25. Il est dit « Vateled ben Vatikra et Shemo Chet ». Ça veut dire qu'elle enfanta un fils et elle le nomma Chet. Donc par opposition, on voit bien qu'elle n'a pas nommé Caïn et Hevel. Et qu'est-ce qu'en tire le Netziv ? Il dit que ces noms conviennent, entre guillemets, presque naturellement, leur conviennent presque naturellement. Donc c'est pour les qualifier. Donc Caïn, c'est un nom qui est rapproché du mot Kinyan, qui veut dire acquisition, dans le sens où tout de suite Caïn va se présenter comme une aide pour soutenir Adam Harishon dans sa tâche de cultiver la terre, qui est la tâche vitale que Adam Harishon a reçue d'Hachem, puisque c'était déjà ce qu'il faisait au Gan Eden, pour subvenir à ses besoins par le travail de la terre. Et tout de suite, après, on a donc Hevel, qui signifie une buée, une dépense d'énergie, presque en vase clos, comme si c'était en circuit fermé, qu'on est forcé de remarquer, puisque ça va être repris après dans Kohelet, c'est « tout est vanité », enfin c'est le mot qui signifie aussi « vanité hein. ». Donc Hevel qui signifie une buée, une dépense d'énergie presque en vase clos. Et le Netziv interprète en fait ces deux noms, comme en tout cas le choix de le nom qui s'est imposé pour Hevel comme le choix d'une occupation qu'il va avoir à apporter un en plus, quelque chose en plus. Cette buée, cette dépense d'énergie, ça va signifier pour le Netziv que Hevel va apporter un surplus par rapport au minimum vital. Au minimum vital qui est censé être incarné par le travail de Caïn, qui est le travail de la terre. Et cet en plus, ce surplus par rapport au minimum vital, c'est la recherche du bien-être, qui va au-delà de la nécessité première à laquelle répond l'agriculture. Donc il faut bien se rappeler qu'à l'époque, les hommes ne mangeaient pas la viande. Donc être pasteur, déjà ça a limité, c'était pas pour faire la shrita et pour consommer de la viande après, C'était forcément pour le cuir des animaux, enfin la peau des animaux, ou le lait, enfin, ou la production, ou toute autre forme de. Mais déjà, c'était pas pour la viande en elle-même. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient en plus par rapport à une nécessité vitale. Et cette démarche, cette recherche de Hevel, on dit que c'est une dépense d'énergie qui est illimitée, puisque la recherche du bien-être, on est toujours dedans aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est sans fin, qui est illimité. On peut toujours trouver un en plus, on peut toujours trouver un confort, un bien-être par rapport à ce qu'on a. Et avant d'aller plus loin dans l'opposition des deux activités des deux frères, le Netziv fait une deuxième remarque sur la façon dont la Torah nous relate leur naissance. Elle arrive, est Hevel, et elle continua d'enfanter son frère Hevel. Et là, on ne comprend pas, parce que, bien évidemment, Caïn, c'est son premier fils, Hevel, c'est le deuxième, c'est clair que c'est le frère du premier, puisqu'il n'y a qu'un seul couple pour l'instant, c'est Adam Rishon et Chava. Donc son frère est en trop. On aurait dû avoir, et elle enfanta de plus, Hevel. Il n'y a pas besoin de nous dire que c'est son frère. Et donc, ce rajout, cette insistance de la Torah par rapport à son frère, le Netziv l'interprète comme voulant dire que de Chava est né, avant même la naissance de Hevel, la notion, le concept de fraternité. C'est très intéressant parce que le Netziv interprète cette insistance du texte, du Passouk, pour nous dire qu'en fait, avant même la naissance de Hevel, de Chava est sorti autre chose, est sorti la notion de fraternité. Et pourquoi parler de fraternité à ce moment-là? Pourquoi cette insistance du Passouk? Parce qu'on pourrait dire, bon, deux frères qui naissent, la naissance de la fraternité, c'est un peu évident. Le fait que la Torah ait jugé nécessaire de souligner cette évidence à ce moment-là, alors qu'on sait tout de suite très vite après que cette fraternité a mal tourné, qu'elle a fini en un échec, le Netziv nous donne un contenu à cette nouvelle notion qui va éclairer tout le reste du Passouk. D'après le Netziv, cette fraternité, ça veut dire que l'un travaille pour l'autre. Et c'est tout de suite ce qu'on voit et ce qu'on peut commencer à comprendre, où l'un permet à l'autre de se consacrer à autre chose. C'est la définition de cette fraternité, de cette première fraternité que le Netziv en retire. Et donc c'est très intéressant par rapport à notre sujet aujourd'hui, par rapport à nous aujourd'hui, puisque si on imaginait une vision plus large de la société, on pourrait avoir une notion de fraternité avec un partage horizontal des tâches, où en fait chacun fait ce qu'il sait faire, tout en permettant à l'autre, à son frère entre guillemets, de faire ce qu'il a envie de faire, de se dégager une disponibilité pour faire ce à quoi sa nature ou ses dons ou son inclinaison le porte. Donc c'est très intéressant parce que c'est une notion de fraternité qui est très belle, même si tout de suite on sait que ça a mal terminé, par opposition à un partage vertical des tâches où chacun travaille pour son propre compte, subvient à ses besoins sans forcément regarder ce que fait l'autre. Alors on n'a pas d'indication sur la façon dont ça se passait entre les deux frères concrètement, mais on peut imaginer que, vu que les hommes ne mangeaient pas de viande, forcément, Caïn nourrissait, entre guillemets, un petit peu Hevel. On n'a pas d'indication, encore une fois, sur ce partage, sur ce troc, mais on sait qu'il y avait des relations de fraternité entre eux, et que donc, ils devaient, forcément, on peut imaginer, qu'ils devaient sûrement échanger des choses. Donc il y a vraiment une notion sociale de partage, qui n'est pas encore économique, qui est vraiment liée à cette fraternité. Et donc tout de suite on va essayer de poser une première réflexion. On voit que la créativité de Hevel, elle est liée à la fraternité. Et donc on a l'impression que cette créativité de Hevel, cette inventivité, elle n'a pu exister que parce qu'il y avait cette fraternité avec Caïn. Donc c'est très intéressant parce que de cette interprétation du Netziv, on tire un lien très fort entre la fraternité et la créativité. Comme si pour être créatif, pour être inventif, il fallait d'abord avoir un frère, quelque part. En tout cas, les deux notions sont liées. Alors, si on revient au texte, pour voir la façon dont la Torah nous présente les occupations respectives des deux frères, de Hevel et de Caïn, là aussi, c'est intéressant. Le pasouk dit « Et Hevel fut un berger, et Caïn était un travailleur de la terre. » Alors, Rashi tout de suite commente le choix de Hevel en disant qu'il a quitté la culture de la terre parce qu'elle avait été maudite. On sait que la terre a été maudite après la faute d'Adam Arishon, qu'il y a eu une clala d'Hachem sur la terre. Et donc Rashi vient justifier l'innovation de Hevel dans son nouveau métier, l'activité pastorale, par un refus de la clala sur la terre. Un refus de la clala de la part de Hevel sur la terre. Alors comment on peut comprendre ce refus, puisqu'on sait que Adam Arishon a continué et que Caïn aussi. Ça nous pose la question de notre positionnement, du positionnement de l'homme par rapport à la clala. Donc il y a deux réactions, on voit qu'il y a deux réactions possibles par rapport à ça, par rapport à cette clala. La terre a été maudite suite à la faute d'Adam Arishon. La malédiction se termine par l'expression que connais bien, à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Donc ça veut dire que l'homme devra faire encore plus d'efforts pour obtenir de la terre ce qu'elle lui donnait avant avec beaucoup plus de facilité. Et la question, c'est est-ce que l'homme doit prendre sur lui cette clala, assumer sa situation, redoubler d'efforts, ou bien est-ce qu'il doit chercher une voie alternative qui lui permettrait d'éviter cette confrontation avec la clala? Et tout de suite, comme il y a un choix, il y a une problématique, il y a deux façons de faire, ben, les deux frères vont s'engouffrer dans les deux hypothèses chacun, dans les deux démarches. Et donc il y a une divergence radicale dès le départ. Mais on est quand même obligé de remarquer que, en tout cas moi ça m'avait un peu arrêté quand on avait étudié ce passage, c'est que le choix de Hevel, c'est pas qu'il est facile, mais quelque part, non, il n'y a pas de facilité, mais il n'est possible que parce que Caïn assume sa fraternité. On est obligé de le remarquer. Si Caïn avait dit à son frère, il n'est pas question qu'on partage quoi que ce soit, etc., bah, la notion de créativité, il aurait fallu qu'il l'invente autrement. Donc on est obligé de faire la remarque que le choix d'Evel, qui a fui la clala, ce choix n'est possible que parce qu'il s'inscrit à l'intérieur d'une relation de fraternité avec son frère aîné, qui lui prend sur lui, se charge du travail de la terre, pour lui-même et pour son frère. Dans cette opposition entre les deux frères, certains commentateurs ont voulu voir d'autres points de vue, notamment l'opposition entre l'agriculteur et le pasteur, le peuple agriculteur et le peuple pastoral. On sait qu'il y a des commentateurs qui ont fait référence à l'opposition entre Mitzrayim et Israël. On sait comment les Égyptiens détestaient les peuples pastoraux. Ou l'image du pasteur, notamment dans les commentaires de Rav Hirsch, l'image du pasteur, c'est l'image d'un homme libre. En tout cas, on a l'impression qu'il est plus libre dans ses réflexions par rapport à un agriculteur où, quand on reprend l'ambiguïté du mot « Oved », il y a une notion d'asservissement qui renvoie à l'image d'un homme qui est complètement accaparé par son travail, qui n'arrive pas à relever la tête et à s'extraire de sa tâche. Et cette façon de voir l'opposition entre Caïn et Hevel, entre agriculteur et pasteur, c'est une notion commune qui voit bon, l'agriculteur c'est comme un paysan, un homme qui est complètement accaparé par sa tâche, qui n'est pas un intello, quoi. Et Ravi Hirsch va même encore plus loin en disant que la relation de dépendance que l'agriculteur entretient avec les forces naturelles, les éléments naturels, la pluie, le soleil, la grêle, la sécheresse, etc., cette relation de dépendance dans son métier, dans sa tâche d'agriculteur, peut avoir le risque de l'amener à des croyances polythéistes. C'est-à-dire, au lieu de penser que c'est Hachem qui décide s'il va faire une sécheresse ou il va faire une grêle, Il peut en arriver à conférer une autonomie au soleil ou à la pluie, etc. Donc c'est un risque. Et Ravirch va même jusqu'à appuyer ce danger en disant que pour lui, ce serait chez les peuples agriculteurs que la croyance en un Dieu unique aurait vacillé en premier, historiquement. Et il y a une autre façon aussi de voir le métier d'agriculteur. Les Chazal ont aussi remarqué que dans le métier d'agriculteur, on peut avoir un terrain très propice à la construction de la Emouna, puisqu'on sait que, contrairement à d'autres métiers, métier d'agriculteur, bon, on prend une graine, on la plante, après on attend, il pleut, il fait beau, il fait pas beau, ça pousse pas. C'est vraiment la main d'Hachem qui apparaît. Donc dans la confiance et dans l'attente que met l'agriculteur, qui dépose une graine en terre, en tout cas les Chachamim ont voulu voir un processus de Emouna. Donc, pour avoir encore une autre lecture de l'opposition entre Caïn et Hevel, et pour continuer dans l'interprétation qu'en donne le Netziv sur une interprétation de leur nom, Caïn, ça fait donc référence à l'acquisition, donc à une certaine certitude qui vient répondre à un besoin réel, à un besoin vital, à un besoin nécessaire. Et Hevel, lui, porte en lui la notion de futilité. Une notion un peu qu'on a appelée dans le mauvais sens du terme de moutarot, c'est-à-dire une création de besoin, une notion de futilité qui est éloignée d'un besoin vital. C'est donc cette recherche du bien-être. Et le Netziv continue son interprétation des deux activités différentes des deux frères en nous disant de ne pas se tromper. Pour le Netziv, le fait que les deux démarches des deux frères de Caïn et Hevel aboutissent les deux à une mincha, à une offrande à Hachem, c'est un signe que ces démarches ont été pensées, réfléchies, assumées et inscrites dans une démarche d'Avodat Hachem. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'ils ont fait comme ça rapidement en se disant ah ben tiens là, lui il fait ça, moi j'ai pas envie, je fais autre chose. Non, c'est vraiment une démarche, une construction, une démarche d'Avodat Hachem. Et là, on touche le vif du sujet. Si on voit que répondre à un besoin nécessaire, à un besoin vital, comme se prendre sur soi le travail de la terre, c'est une démarche d'Avodat Hachem, ça peut se vivre en tout cas comme une démarche de rapprochement par rapport à Hachem, d'assumer sa condition humaine, on peut le comprendre. Par contre, on a l'impression, comme ça, rapidement, que celui qui fait de sa vie une recherche perpétuelle de bien-être, de futilité, d'en plus, de surplus par rapport à une nécessité vitale, ça paraît plus difficile de raccrocher ça à une démarche d'Avodat Hachem, dans une première lecture. Ça paraît plus difficile. C'est toute la littérature qui a été pondue sur la société de consommation et sa quête un peu vide de sens, je crée des besoins, j'y réponds par des nouveaux produits, je crée des besoins, j'y réponds par des nouveaux produits. Enfin, c'est une quête qui est un peu vide de sens, qui est infinie et qui est vide de sens. Donc c'est plus difficile de voir dans cette démarche, a priori, une démarche d'Avodat Hachem. Mais le Netziv continue en nous disant que il ne faut pas s'attacher à cette première lecture et que s'il y avait un vrai désaccord sur la façon de faire résider la présence d'Hachem dans le monde entre les deux frères, c'est parce qu'ils ont opposé quelque part deux modèles, deux modes de vie, un qui se résume au strict minimum sans aucun ajout, c'est la démarche de Caïn, et l'autre qui va au contraire, nous dit le Netziv, intégrer une spécificité humaine, et là on redonne un petit peu de la noblesse à la démarche de Hevel. Puisque le Netziv nous dit que c'est ça qui distingue l'homme de l'animal, c'est cette recherche du superflu, de l'en plus, du bien-être, en assumant cette recherche de bien-être par rapport à sa condition d'homme. Donc le Netziv présente clairement, sans prendre parti, les deux démarches des deux frères comme deux démarches opposées, mais étant toutes deux des démarches réfléchies, pensées, comme étant des démarches d'Avodat Hashem. Sans le côté péjoratif de la recherche du bien-être par Hevel. Au contraire, il dit que c'est ce qui distingue l'homme de l'animal. Et comment on peut encore souligner ce point, c'est que dans le passouk, on nous dit, et Evel fut un berger, et Caïn était un travailleur de la terre. Et le fait que le passouk nomme l'activité de Caïn en deuxième, le Netziv interprète ça en disant, bien qu'il ait vu son frère faire un autre choix que le sien, qui paraissait naturel, de continuer, entre guillemets, l'exploitation familiale du travail de la terre, bien qu'il ait vu son frère faire autre chose, il est resté agriculteur. C'est comme ça qu'on peut comprendre cette bizarrerie du passouk de mettre, alors que Caïn est l'aîné, de mettre Caïn après Evel. C'est pour nous souligner que ce n'était pas l'attitude d'un homme sans imagination, d'un rustre, d'un paysan qui ne sait pas quoi faire et qui se dit je vais faire comme mon père, au moins je suis tranquille, je sais que ça répond à une nécessité. Non, pas du tout. Ça vient renforcer cette idée que c'est une démarche pensée, construite, qu'il a vu son frère faire un autre choix et qu'il a décidé sciemment et consciemment de rester sur son choix d'être agriculteur. Donc si on se résume, on a deux façons tout de suite par rapport au travail d'assumer sa condition d'homme à travers le modèle des deux frères. Une, celle de Caïn qui est à minima, je réponds aux besoins vitaux, je fais le minimum par rapport à ce dont j'ai besoin. Et l'autre, qui est au maximum, qui consiste à innover, à créer, à apporter une recherche du progrès, qui nous paraît à la fois naturelle, puisque c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'homme, mais qui aussi peut être vide de sens. Et donc après, on en arrive donc après un certain temps à leur offrande réciproque. Et c'est Caïn qui prend l'initiative de faire une offrande, le premier, et Evel ne fait que le suivre. Et certains commentateurs ont vu là, peut-être, c'est une possibilité, l'origine de l'échec de la relation entre les deux frères. On peut se poser après tout cette question, pourquoi Evel ne s'est-il pas senti acquitté par la mincha de son frère? Il y avait une notion de fraternité qui était très forte, même s'ils avaient deux façons de vouloir faire résider la présence d'Hachem dans le monde, Evel aurait très bien pu se dire, c'est mon frère aîné, en plus il a pris sur lui, malgré la clala que moi je ne veux pas assumer, il a pris sur lui le travail de la terre, il fait une mincha à Hachem, je me sens acquitté par lui. Il aurait très bien pu dire ça, il aurait très bien pu se sentir acquitté par son frère. Et c'est pas ce qui s'est passé. Evel a fait une mincha après celle de Caïn. Et c'est l'offrande de Caïn qui a été rejetée. Donc on a dit que c'était quelque chose d'extrêmement. Enfin, moi je me suis imaginé que c'était quelque chose de très violent pour Caïn, ce refus d'agréer son offrande par Hachem. Et là encore, le Netziv va avoir une interprétation très originale par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre sur ça, sur ce passage. Il va modérer en fait le refus d'Hachem, avec une lecture très originale. Donc le Passouk, c'est le Passouk Zayin. C'est là où, après avoir vu que Caïn s'affligeait, le Passouk dit cela contraria fort Caïn et sa face s'abaissa. Donc Hachem lui dit pourquoi est-ce que ça te contrarie? Pourquoi ta face est-elle abaissée? Et tout de suite après, donc Hachem parle directement à Caïn et il lui dit Im tétiv se'et ve'im lo tétiv la pétah chatat rovetz ve'elecha teshukato ve'ata timeshal bo. Ça veut dire, alors là, la traduction entre guillemets classique, je vais prendre celle de Rav Munk. Si tu t'améliores, tu pourras être pardonné. Donc, si tu cherches à t'améliorer, ta faute pourra être pardonnée. C'est le terme de Seet qui est traduit habituellement par faute. Non, c'est traduit habituellement, pardon, par le sens de supporter. Donc, si tu t'améliores, ta faute pourra être supportée par Hachem, si tu t'améliores. Et le Netziv a tout de suite une interprétation différente. Puisque dans cette traduction qui est classique, on voit qu'on a l'impression que le verdict d'Hachem est définitif sur le projet de Caïn. Si tu t'améliores, ta faute pourra être pardonnée. Je crois que Rashi dit que cette faute, c'est d'avoir façon incorrecte fait sa mincha. Enfin, il y a une interprétation de Rashi qui dit qu'il a donné des mauvais fruits ou qu'il n'a pas fait comme il fallait. Donc cette faute-là, si on traduit le pasouk normalement, c'est si tu t'améliores, cette faute pourrait être pardonnée. C'est pourquoi, en fait, ta démarche n'est pas agréée par Hachem. Donc ça voudrait dire que le verdict d'Hachem sur le choix de Caïn serait définitif. Il a juste la possibilité de faire tchouva, de s'amender, de reconnaître son erreur et de s'améliorer. Mais le Netziv ne traduit pas comme ça. Et là encore, on arrive à une interprétation très originale. Il traduit « Seth » par « supérieur ». Et ça change complètement le sens du pasouk. Ça voudrait dire « Si tu cherches à t'améliorer, alors ta démarche est supérieure. » Alors ta démarche est supérieure. Et si tu ne cherches pas à t'améliorer, alors la faute est tapie à ta porte et son désir est dirigé vers toi, mais toi tu peux le maîtriser. Donc pour le Netziv, le fait de rendre le terme Seet par supérieur, ça voudrait dire que Hachem n'aurait pas définitivement pris le parti de Hevel en acceptant la mincha de Hevel et en rejetant celle de Caïn. Mais qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là si tu t'améliores? Ta démarche est supérieure. Si tu t'améliores, qu'est-ce que ça veut dire? Donc pour le Netziv, il fait une distinction en deux points sur la différence entre la démarche de Caïn et d'Hevel. Et là, on touche vraiment au cœur du sujet de l'occupation des deux frères. Le premier point, c'est que dans l'occupation de son temps, la démarche de Caïn était celle de répondre à des besoins vitaux. Donc il avait une démarche limitée. Je travaille de 8h à midi, par exemple, et une fois que je me suis acquitté de mon travail, je dispose de mon temps libre. Donc c'est vraiment une gestion du temps qui est limitée. Alors que pour Hevel, la recherche de moutarot, de bien-être, d'un en plus, on a dit que c'est par essence, c'était sans limite, c'était infini. Donc il peut pas y avoir de 8h, 12h, et puis après je dispose de mon temps libre. C'est une démarche qui est sans limite. On va revenir après sur cette distinction dans le travail, dans la relation et l'occupation travail-temps dans les deux démarches. Et le deuxième point que remarque tout de suite le Netziv, c'est que dans la démarche de Hevel, si on y réfléchit un peu, cette démarche, elle porte en elle quelque chose qui doit normalement être présent dans une recherche d'Avodat Hashem, c'est une démarche d'amélioration permanente. Si on regarde cette démarche de Hevel d'une façon positive, le fait d'être sans arrêt en train de chercher un en plus, un bien-être, quelque chose qui distingue l'homme de l'animal, ça veut dire qu'il y a comme un espèce de moteur à l'intérieur de ce travail qui est que je cherche à améliorer sans cesse les choses. Et donc je peux facilement m'appuyer sur ce moteur pour dire que je me construis aussi en même temps. J'ai une démarche d'amélioration permanente dans mon travail qui forcément m'imbibe, m'influence. Donc, le deuxième point que remarque le Netziv, c'est que, contrairement à la démarche de Caïn, dans la démarche de Hevel, il y a une démarche personnelle d'amélioration permanente. On va voir après l'amélioration de quoi, mais ça veut dire que Hevel utilise son travail pour s'améliorer. Et ça veut dire que, si on reprend et on traduit l'exemple de Hevel en termes contemporains, si je cherche à donner du sens dans mon travail, même si je travaille toute la journée, si je cherche à donner un certain sens à mon travail, dans le sens je l'axe sur mon amélioration personnelle, ça sert à me construire, à me rapprocher d'Hachem. Alors bien sûr que c'est une démarche très noble et très positive qui vise au titre d'Avodat Hachem. On peut très bien imaginer un homme qui travaille toute la journée, mais qui le fait d'une telle façon, tellement... Voilà, axé sur l'amélioration personnelle, qu'il veut ressembler à Hachem, il veut se rapprocher d'Hachem, que bien sûr, c'est une démarche de construction et c'est une démarche d'Avodat Hachem. A l'inverse de ce que le Netziv nous a fait remarquer, que la démarche de Caïn semblait complètement dénuée de recherche de cet ordre-là. On n'a pas l'impression que ça fait partie de sa démarche. On a l'impression que Caïn, il travaille parce qu'il doit travailler, c'est une nécessité, donc il vit ça vraiment comme une obligation à laquelle il doit se plier. Il fait son travail et après on pourrait traduire ça en termes contemporains, il fonce au Beth Midrash, il étudie, il dispose de son temps libre pour faire autre chose. Mais en tout cas, il ne vit pas son travail comme un tremplin d'amélioration permanente, comme quelque chose dans lequel il va s'investir, il va investir de lui-même pour se construire, etc. Il en fait le minimum et il répond à la nécessité, il s'y plie et puis après, il a son temps libre pour faire autre chose. Donc dans la démarche de Caïn, on voit bien que contrairement à la démarche de Hevel, il y a une séparation. C'est important aussi par rapport à la suite. C'est que le temps libre que dégage Caïn, il est libre de tout, puisqu'on sait qu'il circonscrit son temps de façon très, très, très radicale, et une fois qu'il a fait ce qu'il avait à faire, il dispose vraiment d'un temps libre. On a un exemple, je crois, parmi nos sages, le Refet Sraïm avait une démarche un peu comparable. Je crois qu'il avait une échoppe, qu'il était cordonnier, ou qu'il avait une activité épicier, voilà, pardon. Et donc il ouvrait son commerce, par exemple le matin, et dès qu'il voyait qu'il avait suffisamment de parnassa pour ce dont il avait besoin, il fermait son échoppe et il courait étudier. Donc c'est une démarche qui est libre de toute préoccupation, on va dire, matérielle, alors que la démarche de Hevel, elle est complètement imbriquée dans le travail. Et c'est comme ça que maintenant on peut revenir à ce que dit Hachem à Caïn. C'est comme ça que le Netziv voudrait nous faire comprendre cette phrase. Si tu cherches à t'améliorer, ça veut dire si tu fais dans ton travail une démarche d'amélioration personnelle, alors ta démarche est supérieure. Oui, si tu, pardon, pas dans ton travail, dans ton temps libre. Si tu as dans ton temps libre une démarche d'amélioration personnelle, c'est-à-dire comme on prenait l'exemple du Hafetz Chaim, si tu cours après au Beit HaMidrash pour te construire et pour étudier, alors bien sûr que ta démarche est supérieure, puisque tu as circonscrit ton travail au minimum, et après ton temps libre, si tu l'utilises correctement, ta démarche est supérieure. On a l'impression que c'est ce que dit Hachem à Caïn. Donc c'est pas pour le consoler s'il dit ça, c'est forcément que ça a du sens. Donc, si tu mets à profit ce temps libre pour te construire, c'est-à-dire si tu arrives à trouver les ressources en toi, parce qu'on voit, on perçoit tout de suite la difficulté de la démarche de Caïn, ça demande beaucoup plus de force morale de faire ça, de se contenter de travailler juste au minimum, et après on a du temps libre, et ce temps libre, il faut bien l'utiliser, sinon c'est pire que la démarche de Hevel, sinon c'est la faute. Et là, on va avoir le plaisir de citer Chaim Meir, qui nous avait parlé, quand on avait étudié ce passage de Shlita, pardon, qui nous avait parlé du mot Ba'avurecha, qui est mentionné à propos de la Klala sur la terre. Ba'avurecha, ça a été traduit par pour toi. C'est le passage dans Bereshit qui parle de la Klala de la terre, de la malédiction de la terre. Comme si la Torah nous disait, la terre a été maudite, tu devras fournir plus d'efforts pour avoir le même résultat, c'est-à-dire subvenir à tes besoins, mais ce n'est pas une punition. La traduction Ba'avurecha, ça veut dire pour toi, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Tu vas fournir plus d'efforts, tu vas être plus occupé, c'est pour ton bien. Et on avait marqué d'ailleurs sur la petite plaquette de présentation du séminaire, cette Mishnah du Pirkei Avot, que cite d'ailleurs le Netziv dans son commentaire, qui dit, car leur double fatigue fait oublier le péché. C'est-à-dire que le rôle du travail, dans cette idée-là, le rôle même de la fatigue au travail, c'est de nous préserver de la faute. C'est de dire, il faut surtout pas que l'homme ait du temps libre, parce que s'il a du temps libre, il va fauter. Donc pour nous préserver de la faute, c'est-à-dire c'est pour toi que j'ai mis une klala sur la terre, pour que tu sois plus occupé et que tu n'aies pas le temps de fauter. Et le Netziv reprenait aussi donc ses moyens d'éviter la tentation. Dans la Gemara Avodah Zara, on a ce passage qui nous dit: nous nous permettrons de passer devant la maison d'Avodah Zara, car notre penchant pour l'Avodah Zara est maîtrisé. On sait que depuis longtemps, c'est un penchant que Hachem a accordé aux hommes de maîtriser, mais pas devant une maison de légèreté, parce que ça, c'est un penchant qu'on ne maîtrise pas. Et donc on a l'impression que Hachem pointe du doigt la démarche de Caïn en lui disant, oui, effectivement, on a l'impression que c'est d'une façon, une manière idéale, une voie juste, mais en même temps, on est obligé de se rappeler que Hachem a donné un certain nombre d'occupations à l'homme, de nombreuses charges, dans le but de le préserver de la faute, pour pas qu'il ait du trop de temps libre et pour pas qu'il en vienne à fauter. Donc, il sera dit dans les versets 22 et 25 après que si l'homme arrive à ne pas perdre son temps libre, mais au contraire à l'investir dans son rapport et dans un amour envers Hachem, alors il est évident que la démarche de Caïn, elle est supérieure. C'est évident. Il vaut mieux pour lui se contenter d'un minimum parce qu'il va plus rapidement se rapprocher d'Hachem. Il va disposer de plus de temps libre et d'un temps libre complètement sans pollution, entre guillemets, avec des préoccupations matérielles, des moutarotes, la recherche du bien-être, du progrès. Il va être complètement libre, son temps libre, pour s'investir dans une avodat Hachem. Et donc, on en arrive à la conclusion, quand on a posé les deux démarches des deux frères, que le fait de parler de réduction du temps de travail pour Caïn, c'est une démarche qui nous paraît presque plus ambitieuse que celle de Hevel. Ça veut dire qu'il faut qu'il trouve les ressources en lui pour pas mal utiliser son temps libre. Donc c'est une démarche plus ambitieuse, mais plus dangereuse. Plus dangereuse parce que, bien évidemment, je dispose d'un temps libre. Si je le passe devant la télé ou que je fais des bêtises ou que j'occupe mal mon temps libre, en tout cas je ne me consacre pas à l'avodat Hashem, alors c'est clair que c'est pire que la démarche de Hevel. Donc il y a un danger qui est de trouver en l'homme, en soi, suffisamment de ressources, suffisamment de force pour faire de ce temps libre une démarche d'amélioration personnelle, de rapprochement par rapport à Hachem. Sans l'aide, on va dire, dans la démarche de Hevel, d'avoir cette espèce de moteur qui est de dire, je suis sans arrêt en train de rechercher un bien-être, un en plus, un progrès, entre guillemets, donc j'ai une démarche d'amélioration permanente de la réalité qui fait que je peux m'appuyer dessus pour me construire, pour en faire aussi un moteur d'amélioration personnelle. Il n'y a pas ça dans la démarche de Caïn, donc forcément il faut qu'il trouve cette ressource-là en lui. Donc c'est une démarche plus dangereuse. Alors, Rav Moshe me faisait remarquer qu'on peut dire quand même, à la décharge de Caïn, que l'effort qu'il fournit pendant son travail, cet investissement qu'il a dans le travail de la terre, on a dit que il y a des Chazal qui disent que c'est très prenant, le travail de l'agriculteur. Donc il pourrait aussi trouver dans cet effort qu'il fournit le moteur d'un autre effort à fournir pour son temps libre. Mais c'est moins évident que dans la démarche de Hevel. Alors donc, si on veut comprendre le gros problème auquel personnellement j'ai été confronté quand on a étudié ce passage, c'est pourquoi Hachem il a refusé la mincha de Caïn. Quand on voit les conséquences que ça a, ce à quoi ça a abouti, c'est énorme. On se dit pourquoi Hachem il a refusé la démarche de Caïn. Je sais que il y a un commentaire de Rashi qui présente pas de façon très positive Caïn, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est le fils d'Adam Harishon, qu'il avait dans tous les commentaires du Netziv qu'on a ramené, qu'il avait une démarche d'Avodat Hashem sincère. Donc c'est pas pour moi, en tout cas je parle en mon nom, c'est pas acceptable de me dire Caïn c'est un rachat, il a mal tourné. Non, il avait une démarche sincère, il avait une démarche pure, et pourquoi Hashem n'a pas jugé sa démarche suffisante pour agréer sa mincha. Si on cherche à comprendre ça, on se dit que dans l'interprétation du Netziv, la mincha de Caïn, c'était peut-être pour lui signifier que il n'était pas encore arrivé au point suffisant où ça pouvait être accepté. Ce n'était pas un refus définitif, mais c'est juste pour lui souligner le fait que dans sa démarche, il n'y ait pas de recherche d'amélioration personnelle, de construction personnelle, que donc il y a un danger, et pour lui signifier ce danger, donc on lui refuse sa mincha, et tout de suite après, Hachem, presque comme si on voulait dire il va pour le consoler, il lui dit pourquoi tu t'affliges, et tu sais, si ta démarche, si tu cherches à t'améliorer, alors ta démarche est supérieure. C'est sous-entendu, on sait que c'est ça que va mal interpréter Caïn après, tu pourras dominer ton frère. Donc ta démarche est supérieure. Alors que dans la démarche de Hevel, il n'y avait rien que Hachem pouvait refuser tout de suite. C'était une démarche qui était plus raisonnable, qui était plus, entre guillemets, à échelle humaine. Ok, je sais que si j'ai du temps libre, je vais fauter. Je sais qu'Hachem m'a donné plein d'occupations pour ne pas fauter, parce que je suis qu'un homme. Donc voilà, je fais une démarche, je me lance dans le métier de pasteur, vers la carrière de pasteur. Voilà, je m'occupe des bêtes, j'ai une recherche d'amélioration, etc. Je fais une mincha Hachem. Il n'y a rien dans cette interprétation-là qui pourrait justifier le fait qu'Hachem refuse sa mincha. Il est dans une démarche d'amélioration permanente qui est plus raisonnable, qui est moins ambitieuse, qui comporte un certain danger, mais qui est somme toute plus maîtrisée. Donc, en tout cas, il se met à l'abri du danger de l'oisiveté, de la faute. Donc, on en arrive à la conclusion que, voilà, le fait que Evel a su utiliser son énergie dans son travail pour construire sa relation avec Hachem, c'est ça qui a permis à sa mincha d'être acceptée. Et le fait que Caïn, il n'y avait pas ce moteur de construction personnelle, d'amélioration, de rapprochement par rapport à Hachem, ça peut expliquer pourquoi Hachem a jugé bon de ne pas l'accepter. J'avais posé la semaine dernière la question à Rav Grandstein, qui m'avait dit aussi, il m'avait dit aussi quelque part, peut-être qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement pour Hachem, parce que déjà Caïn, il est né l'aîné. Il a suffisamment de force morale en lui pour se dire je vais prendre sur moi, malgré la clala de la terre, le travail de la terre. En même temps, j'assume cette notion, ce concept de fraternité, on a vu qui est très beau, et je permets à mon frère de faire autre chose en subvenant à ses besoins vitaux. Et donc Rav Grandstein me disait, si en plus c'est lui qui invente la mincha, la première offrande à Hachem, et qu'en plus Hachem agrée tout de suite son offre, Rav Grandstein me disait, Caïn il va plus se sentir, il va se dire ça y est, je suis bon. Donc c'est un peu pour le replacer dans une démarche justement d'amélioration permanente, de pas penser que tout est déjà fait. Mais on est obligé là aussi de modérer le fait que Hachem ait accepté la mincha de Evel et refusé celle de Caïn. On a parlé des dangers de la démarche de Caïn. La démarche de Evel, elle n'en est pas exempte non plus. Il y a un risque, et aujourd'hui on peut le toucher du doigt, parce qu'on n'est plus à l'époque de simplement se dire que la recherche du bien-être c'était le fait de s'occuper des bêtes, d'être pasteur. Aujourd'hui on voit bien que la création de nouveaux besoins, le marketing, la communication, le fait de répondre à de nouveaux besoins concrets, c'est un processus sans fin, mais qui peut très facilement conduire à des excès, à conduire l'homme à oublier complètement la finalité de son travail, à passer complètement à côté de quoi que ce soit d'intéressant dans son travail. Donc c'est un danger, mais qu'on a l'impression que c'est un danger plus actuel aujourd'hui. Ça nous parle plus à nous aujourd'hui, parce qu'on est dedans. On crée des besoins, on y répond par la pub, par la communication, par la télé, on entretient les besoins, on crée les produits qui vont répondre aux besoins qu'on a créés. Bon, c'est complètement vide de sens. Alors on doit accepter ce fait que Hachem a accepté, a agréé la démarche de Evel. Et pour rajouter encore un commentaire par rapport à ça, comme si ça ne nous suffisait pas, si on se demande pourquoi Hachem a agréé ou a privilégié une démarche par rapport à une autre, même si on sait que la démarche de Evel, elle n'a pas survécu puisque Evel a été tué. Pourquoi est-ce que Hachem a choisi la démarche de Evel, puisqu'on voit qu'elle comporte aussi un danger, surtout pour nous aujourd'hui? Il y a encore une autre interprétation qui peut nous... Il est possible de penser que la démarche de Evel, c'est une démarche qui s'inscrit dans le monde, qui s'inscrit en confrontation avec le monde. C'est une démarche où je me dis, Hachem il m'a mis sur terre pour améliorer le monde, pour construire ma relation avec lui, pour me perfectionner. Je vais me confronter au monde, je vais me retrousser les manches et je vais me lancer dans cette recherche du bien-être et en même temps d'une recherche d'amélioration personnelle. Mais je suis dans le monde, je m'inscris dans le monde, je me confronte au monde. Alors qu'on pourrait penser que la démarche de Caïn, elle est en retrait par rapport à ça. Quelque part, il en fait le minimum. Et puis après, entre guillemets, il court au Bata Midrash construire sa relation avec Hachem. On a l'impression qu'il se protège, il s'est créé un nouvel espace d'avoda, un peu en dehors du monde, et une fois qu'il a l'impression qu'il s'est acquitté de son devoir, il fonce se construire avec Hachem. Il n'est pas dans une confrontation avec le monde. Et donc le danger dans la démarche de Hevel, c'est toujours le danger de la vie. Je veux dire, j'ai une occupation, je m'investis dans cette occupation. Bien évidemment que ça peut me permettre de passer à côté de la finalité de ce que je fais, mais c'est quelque part le danger de la vie elle-même. Alors que Caïn, on a quand même un peu l'impression que dans sa démarche, il se met en retrait. Et peut-être qu'on peut aussi penser que cette prétention de Caïn de se dire, bon, ben, moi je fais ce que je dois faire, je fais mon travail, je fais mon job, j'assume ma relation de fraternité avec mon frère, je lui permets de faire autre chose, mais dès que j'ai fini mon job, je dispose de mon temps libre. C'est une démarche qui est moins en tout cas inscrite dans une confrontation avec le monde que celle de Hevel. Je ne sais pas si je suis clair, mais elle paraît plus en retrait par rapport au monde. On a l'impression qu'il va se mettre à l'abri. Oui. Non. Ah non, c'est Rav Moshe, c'est encore mieux. Donc, im tetiv sehet, on a l'impression que quand Hachem lui dit ça, si tu t'améliores, ta démarche est supérieure. Ça peut être qu'à posteriori, puisqu'on voit bien qu'il y a un danger dans cette démarche. Et cette prise de risque, elle est acceptable que si j'utilise correctement mon temps libre. Si j'en fais n'importe quoi, bien sûr que cette démarche, elle est même pas à regarder. Donc, c'est que si on y arrive que c'est une démarche qui est positive. Alors, on va essayer de faire le lien maintenant avec ce qu'on avait dit en ouverture de la relation entre la notion de fraternité et de créativité. Donc on avait vu que le choix de Hevel de faire autre chose, donc de créer quelque chose de nouveau, n'avait été possible que parce que Caïn avait assumé cette notion de fraternité. Donc on avait fait le lien entre les deux notions. Et Rav Gronstein, la semaine dernière, avait rapporté la discussion entre nos maîtres pour déterminer quand Caïn et Hevel étaient nés. Est-ce que c'est après la faute, comme on a l'impression quand on lit le texte de la Torah, ou est-ce que c'est avant la faute, et là on a quand même quelqu'un de costaud avec nous, c'est Rashi. Et donc si on s'en tient au lien qui conditionne la créativité à la fraternité, c'est-à-dire que Hevel n'a pas pu choisir sa voie, il n'aurait pas pu choisir sa voie si Caïn n'avait pas pris en charge l'essentiel, on a à savoir maintenant, est-ce que la créativité était inscrite dans le projet divin avant la faute ou après la faute ? Nécessairement, puisqu'on a fait un lien entre la notion de fraternité et la notion de créativité. Donc si on suit l'interprétation de Rashi, qui nous dit que Caïn et Hevel sont nés avant la faute, alors la fraternité dont on nous dit que Chava accoucha entre guillemets avant même Hevel, cette fraternité, elle était là avant la faute, puisqu'ils sont nés avant la faute. Donc elle était inscrite dès l'origine dans le projet divin, cette notion de créativité, de fraternité. Par contre, si on suit l'avis de la plupart des autres commentateurs qui font naître Caïn et Hevel après la faute, alors ça voudrait dire que la fraternité n'était pas inscrite dès l'origine dans le projet d'Hachem. Elle est venue après la faute. Ça fait quand même une grande différence. Mais alors comment, maintenant qu'on a parlé comme ça, comment est-ce qu'on peut imaginer un monde sans créativité ? Puisqu'on sait bien, et Rav Gronstein l'a dit la semaine dernière, qu'on a un impératif. On a été fait à l'image d'Hachem. Si on a été fait à l'image d'Hachem, c'est qu'on doit être créateur. D'une certaine façon, on ne peut pas sortir de là. Donc comment on peut concilier ce monde sans créativité, si on suit l'avis de la plupart des commentateurs, de dire que Caïn et Hevel sont nés après la faute, donc la fraternité et la créativité n'étaient pas inscrites dès l'origine dans le projet d'Hachem. Comment concilier ça avec cet impératif d'être créateur comme Hachem? Et là, on doit quand même faire une remarque pour modérer un petit peu ce propos. Quand on regarde quand même bien le texte, il n'y a pas que la créativité d'Evel. Caïn aussi a une forme de créativité, même si elle n'a pas abouti, c'est-à-dire si elle n'a pas été acceptée par Hachem, il a quand même créé quelque chose dans lequel, je veux dire, il y a tout un traité de Gemara qui parle de la façon dont on doit le faire, c'est la mincha, c'est l'offrande à Hachem. C'est quand même Caïn qui l'a inventé. C'est lui le premier qui a eu l'idée d'offrir le fruit de son travail à Hachem. Donc, quelque part, ça prouve bien que il a inventé une voie, il a tracé une voie dans laquelle l'humanité s'est engouffrée après lui. C'est le premier qui a imaginé qu'on pouvait, entre guillemets, donner quelque chose à Hachem. Même si on sait qu'on ne peut rien donner à Hachem, Rav Weinstein avait dit que c'est du chesed que nous fait Hachem, de penser qu'on peut faire quelque chose qui le satisfait. Et c'est bien une invention. Et c'est bien une invention qui se passe de fraternité. Donc pas seulement parce qu'on préfère le commentaire de Rashi, mais aussi par rapport à ce point, on a quand même l'impression que la créativité est bien inscrite dans le monde dès l'origine. Mais si on va jusqu'au bout de cette réflexion, on a devant nous deux sortes de créativité. Une créativité qui dépend exclusivement de la fraternité. Evel a pu faire ce qu'il a fait uniquement parce que Caïn prenait en charge la satisfaction des besoins vitaux, et une autre créativité qui n'est pas conditionnée par la fraternité. C'est la créativité de Caïn qui invente une offrande à Hachem. Et pour faire encore le lien avec ce que disait Rav Grunstein la semaine dernière, on a l'impression que sur le deuxième point, c'est-à-dire l'invention de la mincha, de cette offrande par Caïn, on fait le lien avec le chercheur qu'a cité Rav Grunstein la semaine dernière, qui lui disait qu'un des critères de la créativité, c'est le leadership. Donc on voit bien que le leadership que voulait assumer Caïn, ça a un lien avec cette créativité d'inventer cette forme de mincha. Et c'est l'interprétation du Netziv quand il nous dit que Caïn prend l'initiative de faire une offrande, son frère le suit, et il y a un paradoxe, c'est que on voit clairement que Hachem refuse la mincha de Caïn. Caïn s'en afflige extrêmement, mais tout de suite après, on a l'impression que Hachem confirme Caïn dans son rôle de leader en lui disant: si tu t'améliores, si tu t'inscris dans une démarche d'amélioration permanente, de construction personnelle, alors oui, ta démarche est supérieure, et oui, tu peux dominer ton frère, tu peux reprendre tes prérogatives d'aîné. Et en plus, tu le nourris. Enfin, donc il n'y a pas de raison d'avoir honte de ta démarche, au contraire. Donc on a l'impression que ça pourrait le conforter dans sa place de leader s'il réussit à être à la hauteur de cette ambition. Alors sa démarche est supérieure. Donc on en arrive à deux notions de créativité. Une notion qui est liée au leadership, à l'inventivité pure de Caïn, et une notion qui est celle de Evel. Je peux m'inventer un autre destin uniquement parce que je suis dans une relation de fraternité. Alors pour conclure cette présentation, on va essayer de dire deux mots de la fin, donc du meurtre de Evel par Caïn. C'est toujours le Netziv qui nous fait remarquer l'insistance d'Hachem quand il interpelle Caïn. On sait que Hachem lui dit: où est Evel, ton frère? Là encore, on revient au passage qui nous annonçait la naissance de Evel. On n'a pas besoin de dire ton frère. Où est Evel? Ils sont deux. C'est forcément son frère. Ils ont le même père. Il n'y a qu'un seul couple, donc c'est évident. Pourquoi cette insistance d'Hachem de lui dire: où est Evel, ton frère? On a l'impression qu'il le souligne. Et puis on a la même insistance dans la réponse de Caïn à Hachem. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien, il aurait pu dire suis-je le gardien de Evel? Non, suis-je le gardien de mon frère? Donc là, on a vraiment l'impression que Hachem l'interpelle sur sa fraternité. Et le Netziv explique que en fait, le drame de Caïn, outre le fait de ne pas avoir inscrit sa démarche dans une démarche d'amélioration permanente, donc d'avoir fait une mincha Hachem sans penser qu'il n'en était pas encore à ce point-là, que ce n'était peut-être pas encore le moment pour lui de faire une mincha à Hachem. Le Netziv explique que Caïn, son autre drame, c'est qu'il n'a pas su concilier sa position d'aîné. Et on sait que les aînés ont des problèmes dans la Torah à assumer leur rôle. Le Netziv explique que Caïn n'a pas su concilier sa position d'aîné, de leader, avec celle de la fraternité. C'est comme si, quand Hachem lui dit, si ta démarche, si tu t'améliores, alors ta démarche est supérieure, sous-entendu, si tu t'améliores, tu peux dominer ton frère, il a oublié que c'était son frère. Et c'est ce que Hachem lui reproche. Où est Evel, ton frère? Qu'est-ce que tu as fait de ta relation de fraternité avec Evel? Ok, t'as une démarche d'avodat Hachem, t'as pensé occuper ton temps d'une certaine façon et construire derrière une avodat Hachem avec le temps libre, mais qu'est-ce que tu fais de ta position de ta relation de fraternité avec Evel? Tu n'as été que dans une démarche liée au travail ou à l'occupation du temps, mais tu as oublié la notion de fraternité. Et quand Caïn renchérit en disant « suis-je le gardien de mon frère ?», ça veut dire « est-ce que je suis responsable ? Est-ce que malgré le fait que je dois le... que tu m'as dit que ma démarche était quand même plus ambitieuse, plus valorisante ? Est-ce que je suis quand même, malgré ça, le responsable de mon frère ? Est-ce que ça n'a pas... » On a l'impression que c'est l'erreur de Caïn, c'est qu'il a pensé que cette phrase d'Hachem, le dégager de son lien de fraternité. Et c'est comme ça qu'il en est arrivé à tuer Evel. Et le pasouk nous dit aussi, que nous donne une information sur la façon dont ça s'est passé. On n'a pas beaucoup d'informations, mais on en a au moins une. C'est qu'ils étaient tous les deux dans les champs. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient tous les deux dans les champs? On peut penser que le champ, ben, c'est le domaine de Caïn, c'est le domaine de l'agriculteur. Et le fait que Caïn, on nous dit dans le passouk, que Caïn dit cela à son frère Evel, c'est-à-dire dit ce que Hachem lui a dit, comme pour se remettre en selle quelque part. Et le passouk nous dit, il arriva alors qu'ils étaient dans les champs, que Caïn assaillit son frère Evel et le tua. Le fait que Caïn ait amené Evel dans le champ pour lui dire ce que lui avait dit Hachem, pour lui dire, tu sais, c'est pas parce que Hachem a refusé ma mincha que je vaux rien, que ma démarche elle est fausse et que je me suis complètement planté, etc. Pas du tout. Le fait qu'il ait amené Evel dans un champ pour lui dire ça, on peut imaginer que c'était en tant qu'aîné pour le contraindre à venir sur son terrain, et donc quelque part comme s'il avait déjà tué la créativité de Evel avant de le tuer physiquement. C'est comme si, en l'obligeant à venir dans son domaine, exercer son leadership pour bien montrer à Evel que voilà, il est dans son domaine, c'est lui qui est le leader, et donc quelque part il tue un petit peu symboliquement, avant de le tuer physiquement, il tue symboliquement Evel, son frère. Et pour finir, on voudrait juste dire que on a l'impression que Hachem avait invité quand il est intervenu pour parler à Caïn, qu'il avait invité Caïn à concilier sa fraternité et sa créativité, son leadership avec la coexistence d'une vraie fraternité. Et ça, la fraternité conçue comme ça, ça voulait dire qu'il laisse à Evel le choix de faire ce qu'il voulait, de donner libre champ à sa créativité. Et on sait que malheureusement, Caïn n'y a pas réussi, ou qu'il a mal interprété les paroles d'Hachem, ou qu'il a mal compris, ou qu'il n'y est pas arrivé. Mais en tout cas, il n'est pas arrivé à concilier cette notion de leadership avec le fait de dire « ma démarche est supérieure, je te nourris, je prends sur moi, malgré la clale à la terre, de travailler la terre et de te donner l'essentiel, le vital pour toi. » Mais malgré ça, je m'inscris aussi dans un rapport de fraternité et je te laisse faire ce que tu veux. Non, on voit que quand Hachem lui a refusé sa mincha, du coup il a été que omnubilé par son leadership et il a oublié sa fraternité avec Evel. Voilà. peux répondre. Tiens, tu peux mettre là. En gros. Des questions? C'est-à-dire sur quel... dit Rashi aussi.
Voilà. Alors, s'il a offert des bikurim,
il faut traduire, il faut dire bikurim, c'est des prémices, enfin des.
Il a offert le meilleur de ce qu'il détenait. Alors que Caïn offre. Mais Caïn, c'est l'aîné. L'aîné, c'est Béhor. Donc le rôle de Béhor eût été justement d'offrir des bikurim. Et non pas d'offrir une offrande. Et c'est pour ça que. L'offrande de Caïn n'est pas agréée. Donc, du même coup, comme en psychanalyse aujourd'hui, quand on dit le complexe de Caïn, c'est pas par hasard. Caïn en souffre énormément, mais cette souffrance, il n'arrive pas à la surmonter et il en devient assassin. Malgré les portes immenses de la Teshuva qui lui sont ouvertes, il n'arrive pas à surmonter. Et je crois savoir qu'il y a des drages qui disent que. Les raisons pour lesquelles ils se sont, à un moment donné, un peu disputés, elles portaient sur trois sujets. Sur la terre, sur l'offrande et sur une femme.
Oui, sur le fait que Evel avait une sœur de plus, une épouse de plus que Caïn.
Voilà.
Alors, juste pour essayer de vous préciser par rapport à votre première question sur l'éruption de la notion de créativité dans Rashi. C'était ce que disait Rav Gronstein la semaine dernière, c'est-à-dire que à son image, Rashi dit, c'est parce que Hachem a fait l'homme avec un moule, à la fois avec la parole et avec, avec ses mains, et que cette nécessité, cette création de l'homme, elle nous oblige à être créatifs. Puisqu'on est une miniature d'Hachem, puisqu'on est fait à l'image d'Hachem, on est obligé d'être créateur. Comme le Shabbat est une miniature du monde à venir, si l'homme est une miniature d'Hachem, alors bien évidemment, intrinsèquement dans sa conception, c'est pour ça que j'ai jugé nécessaire de rappeler ce que disait Rav Gronstein la semaine dernière, intrinsèquement, l'homme doit être créateur. Et pour revenir par rapport aussi à Caïn et Evel, la notion de créativité, elle vient... j'ai fait le lien par rapport à la créativité d'Evel sur cette clala de la terre, sur ce qu'en dit Rashi. Il dit, il se détourne du travail de la terre parce qu'il ne veut pas assumer la clala de la terre et il choisit une autre voie. Alors sur ce que dit Rav Hirsch par rapport à votre deuxième question sur le travail de la terre, il dit c'est pas qu'il dévalorise l'agriculture, mais il commence par dire que cette opposition entre les peuples pastoraux et les peuples agriculteurs, c'est comme si c'était une civilisation pastorale et une civilisation d'agriculteurs. Cette opposition, il fait le lien avec l'opposition entre Mitzrayim et Israël, entre les Égyptiens et les Bnei Israël. Et il dit que il y a une notion de Oved dans l'image de l'agriculteur qui peut donner à penser qu'il y a un asservissement, une notion d'un homme qui est entièrement accaparé par son travail. Et on sait que tous nos grands leaders ont été des pasteurs. Il n'y a pas d'agriculteur parmi nos leaders. Moshe Rabbeinu, David Ameller. Adam Arishon, oui, le Rav a raison, Adam Arishon, c'est un agriculteur. Mais, ok. Donc, voilà, c'est pas que Rav Hirsch dévalorise l'agriculture. Bien sûr, vous avez raison. L'agriculture, de toute façon, c'est une activité essentielle de l'homme, encore aujourd'hui. Mais le fait que la Torah développe beaucoup de lois par rapport à la façon dont ça doit être fait, c'est peut-être aussi pour nous préciser que ça peut pas être fait n'importe comment. Et que donc pour mettre des garde-fous, pour bien que l'homme n'ait pas l'impression qu'il s'approprie le rendement de la terre et il s'en glorifie, et que bien toutes les lois de Shemitah par exemple, c'est bien pour nous rappeler que la terre n'appartient pas à l'homme. Donc bien sûr que vous avez raison, je m'en suis servi parce que j'avais l'impression que ça allait dans le sens de ce que je voulais dire, mais bien sûr. Si vous voulez, si vous voulez. Je sais pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il était pasteur. Donc, en rigolant, j'ai dit, il était dans les prés en train de souffler de la flûte et garder les moutons. Mais c'est. Oui, en plus, il mangeait pas la viande, donc. Mais bon, il y a ce que j'ai dit, c'est-à-dire le fait d'utiliser les animaux pour les peaux de bêtes, pour faire des vêtements, pour faire des chaussures à sa femme. Oui, il travaillait, mais bien sûr. Et, non, voilà. Tu veux dire quoi? Il n'y avait pas d'autre choix que ça? Une fois qu'il refuse l'agriculture, il n'a pas d'autre choix, c'est ça? Ah, c'est ça la question? Non, c'est plus créatif dans la mesure où on a l'impression qu'il a inventé une activité qui n'existait pas et qui paraît pas nécessaire à l'époque. C'est ça qu'on souligne. C'est que comme en plus l'homme ne mangeait pas de la viande des animaux, ils n'étaient pas du tout carnivores, c'est clair que c'est vraiment un peu loin d'une activité essentielle. Donc il a bien inventé quand même une démarche. Précisez-moi. Oui. Il a créé la mincha. Alors, oui, vous avez raison, c'est pas qu'on dit que Caïn n'est pas créatif, on a souligné simplement le fait que malgré la clala de la terre, qui fait que Hevel refuse ce choix-là, lui il assume ce travail-là. Et il assume d'une façon très limitée dans son occupation du temps. En tout cas, c'est l'interprétation qu'en donne le Netziv. Il fait ça parce qu'il répond à une nécessité vitale, subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille et aux besoins éventuellement de son frère, parce qu'il assume sa notion de fraternité. Et puis après, comme vous dites, il a un temps libre. Et bien sûr qu'il peut être créatif dans son temps libre, on espère, puisqu'il va étudier normalement après pour construire sa relation avec Hachem. Donc on doit être créatif dans le Limoud. Et bien sûr, vous avez raison, il peut être créatif aussi dans l'agriculture. Mais simplement, dans sa démarche d'origine, on va dire qu'il n'a pas, comme les Avot, inventé une nouvelle voie, fait quelque chose de nouveau tout de suite. Sa créativité, bien sûr qu'elle doit exister dans le cadre de son travail, mais elle est moins soulignée et elle est moins évidente que la créativité de Hevel. Par exemple, on la souligne plus, la créativité de Caïn, dans le fait qu'il a inventé la première mincha. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Et la semaine dernière, j'avais posé cette question à Rav Gronstein, comment on peut concilier le fait qu'on doit être créateur, notamment dans le Limoud, et qu'on sait qu'à Matan Torah, toutes les interprétations ont été données, tout a été donné. Donc on peut juste faire de la maïotique, retrouver des sens déjà explorés, mais on peut rien créer. Et il y a même une certaine tradition orthodoxe qui dit que tout ce qui est nouveau, c'est louche. Donc on sait bien que c'est une dérive. Et Rav Gronstein... oui, rapporter cet avis, cette discussion, pour dire que c'était Rav Israël Salanter. Il y avait une grande discussion entre certains Rachamim, que Rav Israël Salanter a dit que quand on trouve une interprétation qui est conforme à la halakha, c'est pas un vrai chidouche. Il a dit ça la semaine dernière. Et donc ça veut dire que un vrai chidouche, c'est quelque chose qui est qui pourrait être contraire à la halakha. On s'arrête là parce que d'abord il n'est pas là, et puis parce que après je vais dire des bêtises, mais c'est renversant quand même. C'est une autre façon de se dire que quelque part, si on se contente de ronronner avec une interprétation du texte, ben non, on n'est pas créatif. Une question d'Alex. j'ai pas tout entendu. Il faut que tu parles plus. Il faut que tu parles plus fort. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, on peut imaginer, on sait pas, on n'a pas de détails sur la façon dont ils fonctionnaient ensemble, mais on peut imaginer qu'ils faisaient des échanges, un espèce de troc. Puisque forcément, Evel, on nous dit qu'il n'a pas travaillé la terre et qu'il a choisi de faire pasteur, c'est que donc forcément, puisqu'il ne mangeait pas la viande, il fallait qu'il mange quelque chose. Donc il mangeait les récoltes, une partie des récoltes que lui donnait Caïn. On peut que l'imaginer, mais on peut imaginer que ça. Donc forcément, il devait y avoir un espèce de troc. C'était pas du communisme, mais c'était une façon d'échanger ce que j'ai appelé le partage horizontal du travail. Oui, Caïn, d'une certaine façon, il a aussi inventé dans cette notion de fraternité ce que le Netziv souligne, de laisser la possibilité à son frère de faire autre chose. On l'a peut-être pas assez souligné, mais il aurait bien pu dire à son frère stop, tu fais ce que tu veux, mais si tu décides de faire des trucs qui servent à rien, pour l'instant j'en vois pas l'utilité, tes pots de bête, ton lait, tes yaourts, ça sert à rien, tu te débrouilles tout seul. Il aurait très bien pu, quelque part entre guillemets, lui claquer la porte. Et on voit qu'il a quand même assumé, avant que ça tourne mal, il a quand même assumé sa fraternité. Donc c'est lui qui porte le flambeau de la fraternité. Plus que Evel, pour répondre à ta question. Donc oui, Evel, il est moins dans un rapport de... Il se sert de la fraternité de son frère pour faire autre chose, mais c'est vrai que celui qui reprend à son compte la notion de fraternité, c'est Caïn, puisqu'il permet à son frère de faire autre chose par son travail. C'est pas non plus évident. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a mal supporté le fait que la mitra de Evel a été acceptée, pas la sienne, parce qu'il a dû en avoir d'autant plus d'amertume en se disant, après tout, j'ai pris sur moi, j'ai repris le travail de la terre malgré la clala de la terre, j'ai assumé la notion de fraternité, j'ai nourri mon frère, je fais une mitra, elle n'est pas acceptée. C'est peut-être aussi une cause de son amertume, je ne sais pas. C'est ce que dit Nitzim, ouais. Ça, c'est l'interprétation de Rashi, c'est pas l'interprétation de tout le monde, le fait qu'il n'ait pas amené des déchets. Mais... Caïn, tu veux dire.
Caïn, en assumant cette fraternité, assume aussi une lourdeur qui est presque...
Non, mais c'est une interprétation possible. Merci beaucoup.
La créativité, c'est un peu... C'est ça, ouais. Il me semble aussi.